La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans l'émission La Torah expliquée. Pendant un quart d'heure, Guy Attia, directeur du Berger d'Israël, répond aux questions que Benjamin Wagner, journaliste protestant, se pose sur la Torah.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Il y a 15 jours, nous avons parlé de curieuses défaillances spirituelles du peuple d'Israël dans le désert. Dans un premier temps, ils avaient réclamé de l'eau, ou plus exactement, ils étaient amers comme l'eau qu'ils avaient trouvée. Ensuite, ils ont, si je peux parler comme ça, râlé pour de la viande et du pain. Dieu leur a donné de la nourriture qui, comme on l'a vu, devait venir du ciel. C'est l'épisode des cailles et de la manne. Aujourd'hui, on revient encore une fois à un besoin basique, l'eau. Et là, on frise la catastrophe pour Moïse et Aaron.
Oui, exactement. C'est bien avant tout dans les besoins basiques du quotidien que le peuple est mis à l'épreuve. Boire et manger sont en effet des besoins dont on ne peut se passer. Mais ici, on a l'impression que le peuple est un peu comme un enfant qui ne sait pas réfréner ses appétits et qui ne sait pas attendre le moment opportun d'une réponse appropriée à ses besoins les plus élémentaires.
Alors justement, comment est-ce que Dieu va faire face à la contestation qui gronde ? Parce que la pression monte, hein, ils sont à deux doigts de lapider Moïse et Aaron.
Oui, en effet, mais voyons dans un premier temps le texte lui-même de la Torah dans Exode au chapitre 17. Nous lisons « Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour ses étapes sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ?» Là, le peuple avait soif. Le peuple maugréait contre Moïse et il disait « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif ? Moi, mes fils et mes troupeaux. » Et Moïse cria vers le Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ton bâton, avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Quant à moi, je me tiens là, devant toi, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa, qui veut dire provocation, et Meriva, qui veut dire querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Alors, les chapitres se succèdent et on a l'impression que le peuple n'avance pas beaucoup et surtout qu'il ne retient finalement pas trop les leçons de son expérience. Que dire si cela doit durer encore 40 longues années ? Alors nous voilà face à un nouvel épisode de rébellion et on a l'impression que l'histoire se répète une nouvelle fois. La soif presse le peuple et une fois de plus, le peuple doute de la présence même de l'Éternel au milieu d'eux. Comment est-ce possible après tous les miracles dont ils ont pu être témoins ? Et nous en arrivons au fait que, à une autre perspective au sujet du salut d'Israël et de son Messie. Et pour répondre à la contestation du peuple et ses doutes, Dieu demande à Moïse de prendre son bâton et de se diriger vers le rocher d'Horeb. Précision au passage, au verset 5, comme si Moïse avait pu avoir un doute à ce propos, il lui demande de prendre le bâton avec lequel il avait frappé le fleuve d'Égypte. Le bâton est donc, en quelque sorte, l'instrument du jugement. Est-ce qu'il va frapper le peuple pour sa rébellion ? Évidemment non. Il doit au contraire frapper le rocher, car en frappant le rocher, l'eau en jaillira pour le salut du peuple qui est en train de le presser à cause de sa soif. Le verset 6 est tout de même assez étrange. Essayons de visualiser un peu la scène. « Quant à moi, l'Éternel, je me tiens là, devant toi, sur le rocher, en Horeb. » Et ensuite, le verset poursuit, « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » L'Éternel est sur le rocher, et l'Éternel demande à Moïse de frapper le rocher. C'est pas un peu, comment dire, chaud comme situation ? Pourquoi tant de précisions au sujet des lieux exacts où se trouvent Moïse, l'Éternel et le rocher ? À moins que justement s'insinue ici un message que l'apôtre Paul énonce en des termes plus clairs à ses contemporains. Le rocher n'est autre que le Messie, le Mashiach, annoncé, qui doit être frappé du jugement que méritait le peuple pour délivrer enfin le salut au peuple. Comme le dit d'ailleurs Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie. »
Donc si je comprends bien, ce rocher qui abreuve le peuple avec l'eau est en quelque sorte la manifestation visible de l'action divine pour le salut d'Israël.
Oui, en effet. Il y a toujours dans notre récit de l'Exode une dimension immédiate, visible, et une autre de nature beaucoup plus prophétique et spirituelle. L'histoire ne s'arrête donc pas là. Le lieu où est frappé le rocher est le lieu de la contestation, le lieu où le peuple s'est rebellé et où il a douté de la présence divine en son sein. Le Messie, qui est frappé pour le salut du peuple, va renverser, si on peut dire, l'incertitude pour la transformer en certitude, et tous ceux qui se confieront dans ce rocher ne douteront plus de la présence divine en leur sein. Le rocher, c'est-à-dire le Messie, la manifestation visible de Dieu, va dorénavant accompagner le peuple pas à pas.
Alors, est-ce qu'on en aura cette fois-ci terminé avec les questions basiques de viande, de pain ou d'eau ?
Hélas, non. Ces tensions autour de la nourriture ne sont que les reflets, finalement, des difficultés du peuple à accepter l'autorité du Seigneur, l'Éternel, sur lui. Il ne s'agit pas non plus, en apparence, d'épreuves naturelles liées aux difficultés d'une marche dans le désert. Nous réagissons d'ailleurs de façon très variée face aux rudesses de la vie, et nous n'incriminons pas Dieu à chaque fois. Clairement, le récit englobe l'ensemble du peuple dans une attitude rebelle à Dieu. Le texte est donc là pour illustrer une réalité spirituelle qui transcende le peuple entier, tandis que dans la réalité, tous n'appréhendaient pas la soif ou même la faim de la même façon. Les réponses de Dieu sont d'ailleurs à chaque fois tout autant à la mesure des besoins spirituels que matériels. Pour l'épisode que nous venons d'examiner, clairement, plus que de l'eau à boire, le peuple avait besoin de comprendre que Dieu était réellement au milieu du peuple. Le rocher d'où sortait l'eau en abondance est le symbole visible de cette présence. Et ce rocher va finalement accompagner le peuple au fil de ses pérégrinations.
Après l'épreuve de la soif, notre texte relate une autre épreuve symbolique, beaucoup plus guerrière cette fois-ci.
En effet, le texte se poursuit au verset 8. Et verset 8 et suivant, il enchaîne brusquement sur ce qui peut apparaître comme la conséquence, peut-être, du choix rebelle du peuple. Finalement, la guerre est à ses portes. On peut d'une certaine manière imaginer que le salut du peuple, ainsi prophétisé, augure une guerre spirituelle incarnée par la lutte contre Amalek. Mais voyons plus précisément notre texte, donc au verset 8. À Réphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne. » Et dis bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom d'Adonai Nissi, qui veut dire « l'Éternel est mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, il y aura guerre pour le Seigneur contre Amalek de génération en génération. Amalek n'est pas ici un adversaire opportuniste qui, selon d'autres textes, attaque l'arrière-garde d'Israël, ceux qui seraient fatigués ou plus faibles. Non, Amalek est avant tout un adversaire symbolique et spirituel, qui représente l'opposition rebelle contre Dieu. Israël va devoir mener une guerre sans limite, et même si dans notre récit, celui-ci semble entièrement vaincu, le peuple est passé au fil de l'épée, il ressurgira plus tard, ou même assez souvent, de façon inattendue. C'est de génération en génération que le peuple d'Israël devra mener ce combat. Par ailleurs, le combat de Moïse et de Josué se situe à deux niveaux très concrets. Josué et le peuple prennent les armes et mènent le combat face à Amalek dans la vallée, mais la victoire tient à la fermeté de Moïse qui tient le bâton du jugement contre Amalek. Les bras levés et tenant le bâton de Dieu, le même d'ailleurs mentionné quelques versets plus haut pour frapper le rocher, il assure ainsi la victoire aux Israélites. Hur et Aaron vont cependant aider Moïse à conserver les bras levés jusqu'à ce que la bataille soit achevée.
Est-ce que ce n'est pas un symbole fort là, de l'intercession spirituelle de Moïse en faveur du peuple ?
Ah, c'est sûr. Il y a une continuité évidente entre le récit du rocher que Dieu, par la main de Moïse, frappe pour apporter le salut au peuple assoiffé et cette bataille menée de façon si singulière. Le point commun est notamment le bâton qui, d'un côté, donc frappe le rocher et ouvre ainsi la voie au salut du peuple, et de l'autre, ce même bâton qui est élevé au-dessus de la bataille et qui est l'instrument du jugement sur les rebelles. Car, il ne faut pas s'y tromper, la bataille contre Amalek n'intervient pas ici par hasard. La victoire contre les rebelles amalécites est en quelque sorte une anticipation de ce que Dieu prévoit contre les rebelles de tous les peuples, parmi les Israélites y compris. Dieu reste le maître souverain et celui qui apporte le salut, mais aussi le jugement. Le bâton est bien sûr le symbole visible du jugement, tandis que le rocher est là le symbole du salut offert par Dieu. Curieusement, c'est aussi sur un rocher que Moïse s'est assis dans la bataille pour se reposer, en quelque sorte. Mais s'il n'est sans doute pas le même que celui mentionné plus haut, le détail est quand même assez étonnant. Comme nous l'avons déjà évoqué, Yeshua, le Messie, et de l'aveu même de l'apôtre Paul, ce rocher symbolique qui suivait le peuple dans le désert. Il subira la condamnation sur le bois que tous méritaient. Il est maintenant le rocher sur lequel on peut se reposer pour remporter la victoire finale sur Amalek, l'adversaire spirituel de nos âmes.
Eh bien, merci Guy de nous avoir éclairé sur ce texte qui semblait pas à première vue contenir autant de perspectives prophétiques. Notre émission est maintenant terminée et on poursuivra dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Au revoir.
Au revoir.
Merci Guy et merci Benjamin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les thèmes développés et les questions posées dans cette émission sont disponibles sur le site internet www.lebergerdisrael.org. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.